Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, eh bien, chers amis, nous commençons aujourd'hui le grand temps liturgique de toute l'année, le temps de la Passion. Donc, on va occulter pendant 15 jours les vénérations aux saints, c'est pour ça que les statues des saints sont voilées. Et tout va être centré justement sur le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Sacrifice de sa passion, sa mort sur la croix le Vendredi Saint, pour nous ouvrir les portes du paradis. Les pères disent tous que le bon Dieu donne plus de grâce pendant les 15 jours de la Passion, cette semaine, la semaine suivante, la semaine sainte, que pendant toute l'année liturgique. Donc il importe que tous nous ouvrions toutes grandes les portes de notre âme, afin que notre Seigneur Jésus-Christ puisse rentrer librement. Il est évident que si notre âme est fermée, la porte de notre âme est fermée à double tour, le bon Dieu qui n'est pas un voleur ne va pas rentrer en fracturant la porte. Comment ouvre-t-on les portes de notre âme? On ouvre les portes de notre âme surtout par une bonne confession. Donc pendant la semaine sainte, vous voyez, pour ceux surtout ceux qui ne se confessent pas régulièrement, de bien vous confesser, l'Église oblige, sous peine de péché grave, la confession au moins une fois par an pour se préparer à la fête de Pâques. Donc commencez à bien préparer ce temps-là. Je vous conseille beaucoup, pour tous ceux qui ont un petit peu de temps, et ceux qui n'ont pas, qu'ils le trouvent, de lire pendant ces 15 jours de la Passion les textes liturgiques de chaque jour, les textes de la messe de chaque jour, justement pour dilater votre cœur, afin que notre Seigneur Jésus-Christ puisse vraiment y remplir, venir le remplir de ses grâces. Le bon Dieu exerce sa miséricorde, évidemment, tous les jours, mais surtout pendant la Passion. Donc pendant ces 15 jours qui arrivent, la miséricorde du bon Dieu est plus facilement accessible que pendant le reste du temps liturgique. Profitons-en. Il y a évidemment beaucoup de choses à dire pendant la Passion, beaucoup de points à expliquer. J'en ai choisi certains pour vous aider un petit peu à méditer ce temps de la Passion. Je crois que le point le plus important à comprendre et à méditer, c'est ce qui s'est passé le dimanche des Rameaux. Dimanche des Rameaux, le texte de l'Évangile nous dit que tout Jérusalem était à la porte de la ville pour accueillir notre Seigneur. Tout Jérusalem. Bon, évidemment, il faut comprendre le texte. Ça peut dire que matériellement, tous les gens étaient là, mais vraiment, pratiquement toute la ville était là. Toute la ville accueille notre Seigneur Jésus-Christ, organise une grande fête. Tout le monde chante et frappe des mains et organise une entrée triomphale de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vont jusqu'à couper les branches des arbres pour mettre les branches sur le chemin de notre Seigneur. Ils vont même enlever leur manteau, déposer leur manteau sur le sol pour que notre Seigneur, qui est juché sur un petit âne, puisse vraiment rentrer de façon triomphale à la ville de Jérusalem, à sa ville. Et tout le monde va chanter et crier « Vive le Christ roi, Hosanna, fils de David ». C'est vraiment la reconnaissance publique de notre Seigneur Jésus-Christ comme roi. Mon simple problème, c'est que ça n'a pas duré longtemps. Et que 5 jours plus tard, les mêmes personnes, en grande partie les mêmes personnes, vont se retrouver sous le balcon de Ponce Pilate en train de hurler qu'ils soient crucifiés, les mêmes. Et ça, il faut méditer ce point-là. Ceux qui sont en train de hurler pour demander la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque Pilate va leur demander lequel des deux voulez-vous que je vous relâche, notre Seigneur Jésus-Christ ou Barabbas, ils vont tous se mettre à hurler, Barabbas. Les mêmes qui, une semaine, 5 jours auparavant, l'acclamaient comme roi. Et je crois que c'est le point le plus important de la Passion pour nous. Parce que la Passion, justement, nous explique, réactive en quelque sorte pour nous aujourd'hui, le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc dans ces gens qui étaient en train de hurler sous le balcon de Ponce Pilate demandant la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, il y avait certainement, hélas, des disciples de notre Seigneur. On ose espérer qu'il n'y avait pas personne parmi les apôtres. Mais il y avait des disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, il y avait peut-être même des gens qui avaient été guéris miraculeusement par notre Seigneur. Des estropiés qui avaient été guéris, des aveugles qui avaient retrouvé la vue, des sourds qui avaient de nouveau entendu, puis qui avaient pu recevoir l'ouïe pour pouvoir entendre de nouveau. Eh bien, ces gens qui avaient été sauvés par notre Seigneur, qui avaient été guéris par notre Seigneur Jésus-Christ, ont oublié justement toutes ces grâces extraordinaires qu'ils avaient reçues et se retrouvent en train de hurler avec les loups contre notre Seigneur. Eh bien, chers frères, c'est exactement notre histoire. Et ce qui nous arrive à nous, nous aussi on fait la même chose. Combien de fois on dit, en sortant d'une bonne confession, « Seigneur, fini, c'est terminé, je ne veux plus vous offenser. J'ai bien décidé maintenant, avec votre grâce, mon Dieu, à vraiment, réellement changer de vie pour mettre notre Seigneur Jésus-Christ comme seule et unique roi de ma vie de tous les jours. » Et parfois, 5 jours plus tard, quand c'est même pas plus court que cela, eh bien, on met notre Seigneur Jésus-Christ dehors et on l'introduit dans la maison à notre roi, à notre Dieu. Et on commence à adorer une créature au lieu d'adorer le Créateur. Vous voyez, ce qui me semble très, très important, c'est de comprendre que la passion de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas simplement quelque chose de passé. Ça, c'est le protestantisme. Le protestantisme est comme cela. Il ne garde de la passion que la résurrection. Il considère que la passion, c'est quelque chose qui s'est passé il y a très longtemps, il y a 2000 ans, effectivement, notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, mais maintenant il est ressuscité, alléluia. On n'a plus à méditer la passion. Et c'est le Saint-Quirédas qui a une formule très belle qu'il utilise toujours quand il parlait aux enfants, il utilisait cette formule. Il disait, à chaque fois que je commets une faute grave, je recrucifie notre Seigneur Jésus-Christ sur l'autel de mon âme. C'est exactement ça la passion. Donc, il ne faut pas simplement voir la passion comme quelque chose de passé. La passion, c'est quelque chose d'actuel. C'est pour cela que la Sainte Messe, qui est le renouvellement de la passion, n'est pas un renouvellement mémoriel, si vous voulez, de faire mémoire de ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous il y a 2000 ans. Pas du tout. C'est une actualisation de la passion. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ est réalisée de nouveau, concrètement, de façon non sanglante, de façon réelle, concrète. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ se réalise de nouveau chaque fois que le prêtre célèbre la messe. Voilà ce qu'il faut comprendre. Alors il y a une tendance, si vous voulez, qu'on trouve peut-être beaucoup trop souvent, surtout dans nos milieux, c'est de... Quand on parle de la passion, on voit très bien une réaction qui est dangereuse, et elle est très fréquente. Les gens qui se disent, les catholiques qui disent... La passion, oui, c'est les juifs qui ont crucifié notre Seigneur. C'est vrai que les juifs ont crucifié notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait à chaque fois qu'on commet un péché mortel? On peut même aller beaucoup plus loin dans le raisonnement. Qu'est-ce qui est plus grave? Qu'est-ce qui fait plus de mal à notre Seigneur Jésus-Christ? Un péché mortel commis par un juif qui a toujours haï notre Seigneur Jésus-Christ, ou le même péché mortel commis par l'un d'entre nous, nous qui connaissons notre Seigneur Jésus-Christ, qui avons la grâce du baptême, qui sommes marqués dans notre âme par le sceau de la filiation. Nous sommes enfants de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ va donc souffrir beaucoup plus de voir ses enfants, ses amis qui l'offensent, que de voir les juifs qui l'offensent. Donc certes, c'est vrai que les juifs sont responsables de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ il y a 2000 ans, mais nous, on est responsables de nouveau de sa mort par chaque fois qu'on commet une petite faute grave. Donc il faut y réfléchir sérieusement, et à chaque fois que nous sommes tentés, ça peut arriver à tout le monde, nous sommes tentés d'offenser le bon Dieu gravement, de penser, attention, je vais renouveler la passion de notre Seigneur. Lorsque je commets une faute grave, je pousse le bourreau, je prends son fouet et je dis au bourreau, écoutez, vous faites mal votre travail, je vais vous montrer comment il faut frapper notre Seigneur. Et je vais frapper notre Seigneur à la place du bourreau, en frappant encore plus fort que lui. C'est ça la passion de notre Seigneur. N'oublions pas que toute la passion de notre Seigneur, c'est quoi? C'est le rejet public du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que cette passion arrive juste après le dimanche des rameaux. Dimanche des rameaux, c'est la reconnaissance publique du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons qu'il soit notre roi. Et 5 jours plus tard, les gens ont changé d'idée. Et qu'est-ce qu'ils vont hurler? Ils vont hurler, nous ne voulons pas qu'il soit notre roi. Nous rejetons le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne voulons pas qu'il soit notre roi et que son sang retombe sur nos têtes. Eh bien, c'est la même chose pour nous. C'est notre histoire, eh bien, chers frères. Quand je me confesse et que je reçois l'absolution, c'est le dimanche des rameaux. C'est toute la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ qui se réalise dans notre cœur. On fait entrer notre Seigneur Jésus-Christ triomphalement dans notre âme. On a bien préparé le terrain, la route est magnifique. On a coupé des fleurs, on a coupé des branches, on a mis des manteaux sur la route pour que notre Seigneur Jésus-Christ vraiment entre comme grand roi chez moi. Mais si malheureusement, 5 jours plus tard, je fais comme les Juifs et je commets moi aussi un coupé péché mortel, à ce moment-là, je détruis d'un seul coup tout le règne social de notre Seigneur. Et voyez-vous, mes bien chers frères, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans nos jours, de nos jours. On voit très bien de nos jours, surtout dans notre pays, encore plus que dans d'autres pays sans doute, ce rejet public de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, l'Église catholique n'a jamais en tant que telle condamné le principe de la République. Mais la République française a un caractère très spécial. La République française est laïque. C'est une république laïque, ça veut dire quoi? Ça veut dire une république qui, dans son principe même, dans son essence même, refuse toute influence sur la société de tous les jours, sur la société de la vie de tous les jours, toute influence venant de l'Église catholique et de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le laïcisme. Et c'est ce laïcisme qui a été condamné par notre Seigneur. Et donc, de même que, autant notre Seigneur Jésus-Christ, les ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ ou ses amis qui sont devenus ses ennemis ont refusé le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ autant que c'était possible pour eux en leur temps, de la même façon, nous faisons la même chose, mes bien chers frères, aujourd'hui. Notre Seigneur Jésus-Christ est publiquement rejeté, nous aussi, nous disons exactement la même chose, très souvent en disant, ne voulons pas qu'il règne sur nous, que son sang retombe sur nous. Et qu'il est très facile pour montrer à quel point on peut personnaliser justement la passion et actualiser la passion. On voit exactement cela par ces temps actuels, en France surtout, avec la préparation des élections. Tous les candidats, de droite comme de gauche, les 11 candidats, ils ont tous un point commun. Ils refusent tous le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, tous. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Je ne sais pas combien parmi eux sont baptisés. Sans doute certains le sont. Donc certains sont baptisés, certainement, peut-être qu'ils sont tous baptisés, j'en sais rien. Et ce qui est sûr et certain, c'est que tous ont un point commun, la haine formelle de tout ordre chrétien dans lequel notre Seigneur Jésus-Christ est reconnu comme roi. Alors, on reçoit en ce moment pas mal de coups de téléphone avec des élections de gens qui nous disent « Monsieur l'abbé, est-ce que c'est un péché de ne pas voter ?» Je réponds, ce ne serait pas un péché de voter. La question pour moi est là. Avant de se demander si c'est un péché de ne pas voter, posons-nous la question suivante. Est-ce que j'ai le droit de voter pour quelqu'un qui, dans son programme, rejette catégoriquement notre Seigneur Jésus-Christ ? Est-ce que j'ai le droit de voter pour quelqu'un qui, sciemment, consciemment, toute connaissance de cause, refuse toute allusion à notre Seigneur Jésus-Christ. Plus qu'une allusion même, qui refuse par le principe de laïcité, qui refuse toute influence de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un qui donc hurle à la télévision, par toutes la campagne électorale, qui hurle sa haine de notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne voulons pas que notre Seigneur Jésus-Christ règne sur nous. Et si nous sommes un jour élus comme président de la République, nous ne permettrons pas que notre Seigneur Jésus-Christ soit reconnu comme roi dans ce pays. C'est ce que disent mes bien chers frères, tous ceux qui se présentent. Quand on présente les choses comme ça, la réponse est toute simple. Avons-nous le droit de voter pour quelqu'un qui, dans son programme, rejette, déteste, met dehors notre Seigneur Jésus-Christ lui-même? Je pense que simplement poser la question comme ça, ça permet de comprendre bien les choses. Ceci est le refus même du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Et me dire, même si l'abbé, vous venez de dire que la République française n'a jamais été condamnée par l'Église. C'est vrai que le principe républicain n'a pas été condamné par l'Église. Mais la République française telle qu'elle est, c'est du laïcisme. Le laïcisme a été condamné par l'Église. Certes, toutes les républiques ne sont pas comme ça. Mais héros politiques... C'est un chef de République, Garcia Moreno. Garcia Moreno, assassiné par les francs-maçons en 1875, en Équateur, en Amérique du Sud, était président de la République. Donc le drame en France, ce n'est pas la République, le drame en France, c'est le laïcisme de la République. Il faut bien comprendre que dès la fondation de cette République en 1789, c'est déjà le laïcisme qui règne. On dit qu'en ayant coupé la tête du roi Louis XVI, les républicains de l'époque ont coupé la tête de tous les pères de famille. C'est tout à fait vrai. C'est l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ et qui, qui est mise à bas avec une telle action. Donc comment devons-nous réagir, mes bien chers frères? Vous voyez, là c'est un exemple pratique où le bon Dieu nous demande de faire passer notre foi dans la vie de tous les jours. Il ne faut pas dire, mais quand je suis dans l'isoloir, j'oublie ma foi catholique. Non, même dans l'isoloir, même en train de voter, vous devez suivre les principes catholiques. Un péché, c'est toujours un péché. Et voter pour quelqu'un qui publiquement rejette notre Seigneur Jésus-Christ, c'est s'acoquiner avec des bandits, c'est s'acoquiner avec des laïcistes, des laïcs qui refusent complètement le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est de renouveler exactement le péché des Juifs il y a 2000 ans. Alors évidemment, dès qu'on explique ces choses-là, les gens nous disent « même sur l'abbé, le moindre mal. » Encore des bêtises qu'on entend que longueur des jours. Trouvez-moi un seul texte, mes bien chers frères, un seul texte d'avant Vatican II qui dise qu'un catholique a le droit de participer au moindre mal. C'est faux. Il n'y en a pas. On peut faire un moindre bien, jamais un moindre mal. Si on va faire un petit mensonge et pas à la place d'un gros mensonge. Non, parce que petit mensonge, c'est déjà un mensonge. Je dois faire un petit vol à la place d'un gros vol. Non, parce qu'un petit vol, c'est toujours un vol. Est-ce que j'ai le droit de tuer une personne ou d'en tuer 20? Non, parce que tuer une personne, c'est déjà un crime. Donc n'oublions pas, mes bien chers frères, que le bon Dieu nous rappelle sa loi. Tu ne tueras pas. Et tu ne tueras pas, c'est quoi? C'est tu ne tueras pas les âmes. Donc le moindre mal est déjà condamné par l'Église, parce que le moindre mal, c'est déjà offenser notre Seigneur Jésus-Christ. Imaginez un époux qui dise ça à son épouse, voilà, je t'aime bien, alors aujourd'hui, au lieu de t'injurier trois fois, je t'injurie qu'une seule fois. Comme ça, je te prouve mon amour. C'est pas une preuve d'amour, c'est une preuve que vous n'aimez pas. C'est la même chose avec notre Seigneur. Vous voyez, comme il faut, je crois, faire très attention à comprendre l'essence même du combat qui est en face de nous. Le combat qui est en face de nous, le combat électoral s'en est un. Le combat qui est en face de nous, c'est le combat de ceux qui détestent notre Seigneur Jésus-Christ, de ceux qui refusent le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, de ceux qui veulent une république laïque, anti-catholique, contre ceux qui veulent encore reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ comme leur roi. Alors que faut-il faire? S'enfermer dans une chambre et tirer une balle à la tête? Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut justement, mais bien chers frères, que nous battions pour reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ. N'entendons pas dans le panneau de croire que c'est par les lois électorales, par les votes, par mon bulletin de vote que j'ai changé quoi que ce soit. Qu'est-ce que je dois faire pour changer? Qu'est-ce que je dois faire pour changer la France? Qu'est-ce que je dois faire en France pour commencer à faire un petit changement? Que notre Seigneur Jésus-Christ, au moins dans mon âme, soit le roi. Que notre Seigneur Jésus-Christ, au moins chez moi, au moins dans ma famille, soit vraiment le roi. Et si nous savons que le système est complètement pourri, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est justement rejeter le système. Je vous l'ai déjà dit souvent, mais c'est une chose qui m'a énormément frappé depuis le début. J'ai toujours remarqué que, je vous l'ai déjà dit souvent, mais je vous le redis pour ceux qui ne connaissent pas ce point qui est très important à mon avis. Il y a un chiffre qui manque tout le temps, dans tous les pourcentages, dans les millions de chiffres qui sont publiés après les élections. Ils vont vous donner tous les nombres des bulletins blancs, des bulletins nuls, des bulletins valides, etc. Il y a toujours, toujours, toujours un chiffre qui manque. Un chiffre qu'ils ne veulent pas donner, qu'ils ont, mais qu'ils refusent catégoriquement de me donner. Le chiffre de ceux qui refusent le système lui-même. Et quels sont ceux qui refusent le système lui-même? Ceux qui refusent le système lui-même, c'est tout simplement ceux qui sont en âge d'avoir une carte électorale et qui refusent le principe même de la carte électorale, qui ne sont même pas inscrits sur une liste électorale. Il y en a des millions en France. Des millions. Jamais, jamais, jamais un seul chiffre publié sur cela. Pourquoi? Parce que dans leur petite tête du républicain, ça ne passe pas. Il faut rentrer dans le système. Et la seule solution, c'est de refuser le système et de dire, je veux notre Seigneur Jésus-Christ comme roi de mon pays. On ne peut pas l'avoir comme roi officiel de notre pays, au moins, ayons-le dans les territoires de mission sur lesquels j'ai juridiction. Quels sont les territoires de mission sur lesquels vous et moi, nous avons juridiction? Votre âme. Sur votre âme, notre Seigneur Jésus-Christ doit être roi. Il peut être roi, il veut être roi. Et évidemment, dans nos familles, la même chose. Pour notre Seigneur Jésus-Christ, soit roi, roi dans tout, tout ce que nous faisons, au moins pour nous. Et notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi, est consolé d'une certaine façon pendant sa passion. Notre Seigneur Jésus-Christ, pendant sa passion, on va avoir le moment le plus douloureux de la passion, ce n'est pas la flagellation, ni le couronnement d'épines, ni la clavellation, c'est l'agonie au jardin des Oliviers. Notre Seigneur Jésus-Christ va même rentrer en désolation. Mon âme est triste à en mourir. Et qu'est-ce que fait notre Seigneur Jésus-Christ? Il lui envoie un consolateur. Qui est ce consolateur? L'ange consolateur. Eh bien, mes bien chers frères, il faut que pendant la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, vous et moi, nous soyons tous des anges consolateurs pour notre Seigneur Jésus-Christ. Que nous puissions venir voir notre Seigneur Jésus-Christ et le consoler d'une certaine façon. Comment vais-je consoler, réconforter notre Seigneur Jésus-Christ? Comment vais-je consoler le cœur, le sacré cœur de notre Seigneur Jésus-Christ quand je vais lui parler? Réfléchissez à ça. Quelles sont les paroles que je vais utiliser? Quelles sont les paroles que peut-être l'ange consolateur a utilisées le jour où il était envoyé par Dieu pour aller réconforter le sacré cœur? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Et posons-nous la question, est-ce que je peux, avec l'âme que j'ai actuellement, est-ce que je peux réconforter le cœur de notre Seigneur? Est-ce que je peux dire à notre Seigneur Jésus-Christ, écoutez, notre Seigneur, je suis désolé, tout le monde vous bafoue, tout le monde vous méprise, tout le monde crache sur vous, autour de vous, mais au moins, sachez que moi je vous aime, regardez, mon âme est toute pure. Parce qu'au contraire, nous pouvons dire, ben mon Dieu, ben mon âme n'est pas extraordinaire, peut-être qu'elle est même plus sale que les autres. N'oublions pas ce que j'ai déjà dit au début, qu'un homme, que Dieu va souffrir beaucoup plus de la saleté sur une âme catholique que la saleté sur une âme d'une personne qui n'a jamais connu notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas fils de Dieu par le baptême. Alors demandons, mes bien chers frères, ces grâces de lumière dont nous avons besoin. Pendant ces 15 jours de la passion, de méditer sur ces choses, de comprendre la grandeur de la passion, la grandeur aussi du péché de ceux qui refusent publiquement notre Seigneur Jésus-Christ. Contre le laïcisme actuel, contre le laïcisme de notre République, pourri jusqu'à la moelle depuis le début, depuis sa fondation même, parce qu'elle est anticatholique depuis la fondation, contre cette République complètement pourrie, présentons des cœurs catholiques. Présentons des âmes catholiques, présentons des familles catholiques. Soyons catholiques dans notre façon de vivre, dans notre façon de nous habiller, dans notre façon de penser, dans notre façon de nous comporter professionnellement, pour que notre Seigneur Jésus-Christ, au moins chez nous, soit reconnu comme roi. Alors nous pourrons agir comme des anges consolateurs et réconfortés de ce cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous demandons à Notre-Dame, demandons à Notre-Dame, elle qui n'a jamais offensé le Sacré-Cœur, même vénialement, parce qu'elle est Immaculée Conception. Demandons à la Sainte Vierge Marie, ces grâces dont nous avons besoin, qu'elle nous obtienne ces grâces de lumière, ces grâces de force, pour que nous puissions rattraper par beaucoup d'amour les péchés de notre passé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.